la Bibliothèque nationale de France.
Dans le cadre des conférences Léopold de Lille, Benoît Peters explore l'histoire de la bande dessinée à partir des collections de la BNF. Seconde partie, de Ziggy Puce au roman graphique.
Vaste programme pour ce soir que d'essayer de couvrir l'histoire de la bande dessinée de Ziggy Puce d'Alain Saint-Augan au roman graphique tout à fait contemporain. Mais je le ferai sous un angle précis, gardant ce thème de la bande dessinée entre la presse et le livre. Il n'y aura donc aucune exhaustivité dans mon propos. Il y a bien des auteurs que vous aimez, que vous avez lus, que vous aimeriez lire, et dont je ne parlerai pas ce soir, même s'ils le mériteraient amplement. Et je vais, peut-être le sous-titre le laisse-t-il comprendre, je vais me concentrer essentiellement sur le monde francophone, même si de temps à autre une incursion dans le monde américain, voire minimalement dans le monde japonais, sera nécessaire. Mais donc évidemment l'immense production anglo-saxonne ne sera qu'effleurée, ce serait un sujet beaucoup trop vaste. Et pourtant c'est aux États-Unis que je commence, avec William Randolph Hearst, qui, avec Joseph Pulitzer, nous l'avions vu, était un peu à l'origine des débuts américains de la bande dessinée, et qui continuera à y être très attaché, persuadé que c'est excellent pour le public de ses journaux et que ça correspond très bien aussi aux techniques de reproduction. Et il va avoir une idée de génie en fondant le Kingfisher Syndicate, qui sera bientôt imité par beaucoup d'autres syndicates, qui n'ont rien à voir avec des syndicats, et qui sont simplement une manière de mutualiser des bandes dessinées, de mutualiser essentiellement des strips de bandes dessinées qui commencent à apparaître en noir et blanc dans un journal, avant d'être revendus à d'autres journaux un peu partout à travers les États-Unis, puis à travers le monde. C'est donc un système qui assurera la diffusion mondiale de bandes dessinées américaines, et c'est essentiellement à travers le noir et blanc, et donc ces petites bandes de 3 ou 4 images, souvent à chute, mais parfois aussi feuilletonnantes, que l'on va retrouver dans tous les styles, puisque même Crazy Cat de Harry Mann, dont nous connaissons souvent les grandes pages, les pages du dimanche, les Sunday Pages en couleur, mais Crazy Cat, comme bien d'autres séries, existait d'abord sous forme de strip. Cette tradition durera pratiquement tout au long du XXe siècle. Nous en voyons ici quelques exemples, dont le magnifique Bring Up Father de McManus, qui inspirera énormément Hergé et bien d'autres avec son élégance. En France, il sera connu comme la famille Lico. Vous voyez ici l'élégance, le dépouillement, un dessin conçu véritablement pour la reproduction dans la presse, pour que quoi qu'il arrive, d'un journal à l'autre, sur des papiers pas toujours adéquats, il reste quelque chose de la bande dessinée. Et Bringing Up Father, donc série familiale, il y a beaucoup de séries familiales à cette époque aux États-Unis, disons dans les années, fin des années 10, les années 20, cette série a les honneurs de petits albums carrés, mais très peu de séries américaines auront une existence sous forme de livres. La plupart se contentent d'une existence furtive dans la presse. Ici, la magnifique série Gasoline Alley, également connue comme Walt and Skizzix, et qui est l'histoire d'un homme qui se trouve un peu par hasard adopter un enfant que l'on verra grandir d'épisode en épisode, de semaine en semaine. C'est une série admirable qui avait aussi des pages du dimanche tout à fait somptueuses et qui vient seulement d'être publiée en français sous le titre Walt and Skizzix par les éditions Ça et Là, et qui nous dit le destin étrange parfois de cette bande dessinée entre la presse et le livre, puisqu'il a fallu attendre les dernières années pour qu'aux États-Unis ces strips et ces pages du dimanche soient enfin recueillis en livre, et qu'une dimension particulièrement forte de la série, qui est sa manière de jouer du temps de parution pour faire vieillir ces personnages, les faire grandir, puisque le petit enfant finit par devenir adolescent, puis père de famille, une nouvelle génération s'établit. Eh bien, toute cette dimension n'existe que depuis peu dans une version livresque. C'était la mémoire des lecteurs, la mémoire des générations de lecteurs qui y jouaient. Parmi les auteurs de cette époque et les nombreuses séries familiales dont on peut noter qu'elles sont destinées davantage à tout le monde, mais surtout aux adultes, qu'à un public enfantin. Il n'y a pas de spécialisation dans la presse américaine de cette époque. Parmi ces nombreuses séries, il y a celle de Martin Branner, Winnie Winkle, qui est très intéressante pour nous parce qu'elle va, après quelques déformations, rejoindre l'Europe et inspirer différentes séries. Ces petits strips mettent en scène une jeune femme élégante, autonome, qui cherche à se faire une place dans le monde du travail. Et Winnie, que nous voyons ici dans une page du dimanche, donc les strips de la semaine sont en noir et blanc, tout petit, les pages du dimanche sont somptueuses et en couleur. Winnie a un petit frère, et c'est assez étrangement les pages mettant en scène ce petit frère qui vont être traduites et devenir très influentes en France, c'est Bico. Alors Bico, président de club, éclipse sa sœur dans la version française. Donc on a une production qui est manifestement plus orientée vers les enfants, même si la grande sœur et ses robes extravagantes apparaissent régulièrement. Et surtout, Bico va connaître chez Hachette assez rapidement des albums. On est là au milieu des années 20. Et c'est un moment très important parce que c'est le moment où la bande dessinée à Phylactère, où la bande dessinée à Bulle, trouve en France une place conséquente. Nous avions vu la semaine dernière que le Phylactère ne faisait pas la bande dessinée et que l'absence de Phylactère n'empêchait pas d'être dans la bande dessinée. Nous avions vu aussi que le Phylactère traversait la bande dessinée française du XIXe siècle, apparaissant ça et là, puis qu'il était apparu dans certaines bandes dessinées du début du siècle. Il n'empêche que le procédé ne s'était pas installé et que c'était le texte sous l'image qui prévalait. Avec Bico, on a donc, dans un support grand public, de presse et de livres, on a une existence de bande dessinée à Bulle, on pourrait dire de bande dessinée dans leur forme moderne, sans insister trop sur ce terme moderne, sans y voir l'expression d'un progrès. Il se trouve toutefois que l'immense succès remporté par Bico, l'intérêt que les lecteurs lui portent, va inciter un patron de presse a chargé un dessinateur tout-terrain, caricaturiste, peintre, etc., Alain Saint-Augan, va le charger de créer une bande dessinée à la Bico. Et donc, quand nous parlons de Ziguepus comme de la première bande dessinée francophone, un ballon, etc., nous ne devons pas oublier la dette évidente, manifeste jusque dans l'usage de la bichromie, la dette évidente d'Alain Saint-Augan et de Ziguepus par rapport à Bico. Eux aussi seront à la fois des personnages de presse dans le Dimanche illustré et des personnages d'albums également publiés par Hachette. Ce qui va rendre les personnages extraordinairement populaires, par-delà le talent feuilletonnant de Saint-Augan, son humour graphique, ce qui va les rendre extraordinairement populaires, ce n'est ni Zig ni Puce, mais bien le pingouin Alfred. Alfred, que l'on va retrouver dans de nombreuses aventures de Ziguepus, qui jouera un rôle tout à fait essentiel, qui est presque le moteur. On n'est pas du tout dans la situation de Milou par rapport à Tintin, c'est vraiment presque Ziguepus qui court derrière Alfred. Et Alfred devient extraordinairement populaire. Les stars de l'époque l'adoptent. C'est vraiment une mascotte, c'est un personnage dont la notoriété est telle que nous n'en avons plus véritablement idée maintenant, mais cette notoriété a duré assez longtemps pour que les prix d'Angoulême, lorsque le festival d'Angoulême s'est créé, s'appellent quelques années durant les Alfred de la bande dessinée, les prix Alfred. Une autre chose très importante chez Saint-Augan, outre son talent propre, même s'il n'était pas concentré sur la bande dessinée, il ne se vit pas comme un auteur de bande dessinée au sens où d'autres le feront, c'est une activité parmi d'autres. Il a repris le système de Martin Brunner dont il avait été l'assistant, il l'a transformé, perfectionné, il se l'est approprié, mais il continue à produire énormément d'autres choses. Et à un moment, la série Zig et Puce s'interrompra. Mais il y a un élément important, c'est qu'un jour de 1930, un certain Georges Remy, qui débute en Belgique, vient le voir, demande un rendez-vous à Alain Saint-Augan, qui lui offre un de ses originaux au titre pour le moins prémonitoire, assez incroyable, « Gloire et richesse ». Voilà ce qui était promis au jeune Hergé, qui pourtant n'avait pas débuté de manière somptueuse. Vous le savez peut-être, donc Georges Remy est né à Bruxelles dans un milieu modeste en 1907, et c'est dans des petites revues scouts pendant l'adolescence et comme jeune homme, qu'il va faire ses débuts dans une forme qui est encore assez rudimentaire, même si on peut noter sur cette image où on voit Georges Remy au centre, parmi les scouts routiers, on voit la couverture du Boy Scout belge dont il a tout dessiné. L'image, mais aussi le titre, le lettrage, avec une conception très synthétique du texte et de l'image qui sera au cœur de son travail d'auteur. Hergé démarre assez sagement par une bande dessinée à la Christophe, Totor, CP des hannetons, dont nous pouvons noter essentiellement l'influence, outre de Christophe, du cinéma muet. United Rovers présente un grand film comique. Et c'est le cinéma muet qui a nourri les débuts d'Hergé. Il a vu, entrevu quelques bandes dessinées américaines, ce qui explique les signes de mouvement ou le point d'interrogation qui arrive dans cette image, perturbant un peu le système narratif à la Christophe. Un personnage essentiel dans le destin d'Hergé, celui de la bande dessinée, et celui de la bande dessinée en Belgique, qui va connaître le succès que l'on sait, c'est le très controversé abbé Norbert Wallet. L'abbé Wallet dirige un quotidien belge très catholique et très marqué à droite. C'est un admirateur de Mussolini, dont il gardera la photo dédicacée jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui était un signe de constance dans les idées. L'abbé Wallet, qui dirige ce journal, est tiraillé entre son conservatisme politique et une certaine modernité. Et quand il rencontre le jeune Georges Remy, qui voit ses illustrations scouts, le jeune homme est employé au service des abonnements du journal. Rapidement, Wallet l'en sort, lui confie des responsabilités plus importantes comme illustrateur tout-terrain du journal, et puis a l'idée, assez originale pour l'époque, de créer un supplément pour les enfants. Ce supplément, le petit 20e, pendant la première année, ne s'illustre pas particulièrement, jusqu'à ce que, toujours sur suggestion de l'abbé, Hergé reprenne un des petits personnages qu'il a esquissé, transforme son nom de Totor à Tintin et l'envoie en expédition militante et propagandiste au pays des Soviets. Nous pouvons remarquer toutefois, en regardant cette double page, au style encore très simple, que le militantisme politique est loin de tout occuper et qu'il s'agit avant tout d'une dynamisation du récit, qu'on a abandonné le système des légendes, qu'on est véritablement dans l'idée d'un récit porté par l'action et par les paroles des personnages Tintin et son faire-valoir Milou. Lorsque, après un an de feuilleton hebdomadaire, à raison de deux pages à chaque fois, lorsqu'après un an l'aventure se termine, Hergé, la secrétaire de l'abbé Wallet, qui s'appelle Germaine, et l'abbé lui-même discutent de la manière, peut-être, de faire mieux vivre le petit supplément et de se servir de cela pour promouvoir le journal XXe siècle et ses idées catholiques. Et on a l'idée d'organiser un retour de Tintin du pays des Soviets, ce qui va être un événement fondamental qu'Hergé dessine avant même qu'il ait lieu, dessinant un accueil triomphal à la gare du Nord à Bruxelles. Les scouts ont été mobilisés, mais les lecteurs apparemment se sont mobilisés spontanément. Et comme vous le voyez sur la photo, il y a autant d'enfants présents qu'il y en avait sur le dessin d'Hergé. Et donc voici le premier Tintin, la première incarnation de Tintin, accueilli triomphalement par les enfants. On l'a costumé vaguement à la russe, on l'a mis dans un train à Liège pour le faire arriver à la gare du Nord. Il a une valise avec quelques inscriptions en cyrillique, et le seul détail qui gêne les enfants, qui les heurte quelque peu, c'est que Milou soit tenu en laisse. Ceci mis à part, les visionnaires que sont Wallé et Hergé, chacun à leur façon, ont l'idée de reprendre l'aventure en album. On annonce immédiatement l'album, et là, c'est quelque chose de très surprenant, puisque c'est un moment où, pour un quotidien, éditer un album, le mettre en vente, en plus faire un tirage ambitieux de 10 000 exemplaires pour la seule Belgique francophone, ce tirage s'écoulera, et non seulement il s'écoule, mais il existe déjà comme un début de la collection, puisqu'il y a un tirage de tête de 500 exemplaires, numéroté et signé par Tintin et Milou, Hergé ayant signé pour Tintin et sa future fiancée Germaine s'étant essayée, me racontait-elle, à une petite signature de chien. Je vous laisse vous entraîner chez vous aux petites signatures de chien. Vous aurez peu de chances de tomber sur un des 500 exemplaires numérotés. Il doit en rester peu. Je ne crois pas que M. Schiller lui-même, grand bibliophile, possède ce Tintin au pays des soviets. En tout cas, cela décide Hergé à continuer, cela le fait progresser graphiquement. Il est, en Belgique, le seul auteur de bande dessinée, la bande dessinée à lui seul, attirant donc, le jour de parution, le jeudi, beaucoup de lecteurs qui ne suivent pas habituellement le journal Le XXe siècle. Et donc, s'installe là, en Belgique, comme en France peut-être avec Zygépus, mais encore plus clairement, l'idée que la bande dessinée est non seulement une affaire, surtout de presse, mais une affaire d'enfant. Nous avons quitté ce terrain consensuel et familial de la bande dessinée américaine. En Europe, pour longtemps, la bande dessinée est avant tout une affaire enfantine. On joue d'ailleurs avec ce public, et le support de presse est fondamental. La couverture du Petit XXe doit piquer la curiosité des lecteurs. On propose d'ailleurs très souvent dans le Petit XXe un jeu aux lecteurs, les invitant à deviner ce qui pourrait se passer. Bien évidemment, si un lecteur devine, c'est une manière pour Hergé de partir sur une autre piste. Cette rubrique s'appelle « Le mystère Tintin » et véritablement, la série existe d'abord comme un feuilleton dans la presse, avec une préméditation extrêmement faible d'Hergé, comme de beaucoup d'auteurs de l'époque, Saint-Augan aussi, préméditation extrêmement faible d'Hergé quant à l'allure générale du scénario. En 1934, toutefois, la maison Casterman à Tournai suggère à Hergé de reprendre la fabrication de ses albums, qui jusque-là n'étaient édités que par les éditions du Petit XXe, et c'est le développement d'une aventure très importante, puisque les suggestions de cet éditeur, spécialisé dans le livre religieux et le livre jeunesse, particulièrement les livres de prix, les suggestions de cet éditeur conduiront peu à peu à la forme moderne de l'album de bande dessinée que nous connaissons. Je ne vais pas m'attarder trop sur Hergé, en tout cas à ce stade, mais on ne peut que noter les progrès très rapides du jeune homme et sa manière de s'émanciper des clichés qui étaient au cœur de Tintin au pays des soviets, Tintin au Congo et même Tintin en Amérique et les cigares du pharaon. En 1934, lors de la préparation du Lotus Bleu qui doit emmener Tintin en Chine, il rencontre un jeune étudiant chinois, Chang Chongzhen, qui va l'initier au dessin chinois, à la réalité chinoise, qui va lui faire prendre conscience d'une forme de responsabilité, faire du Lotus Bleu un album engagé dans un sens tout autre que l'engagement de Tintin au pays des soviets, puisque là, Hergé ira à rebours, s'écartera de la ligne de son journal, jusqu'à essuyer quelques protestations, et c'est un tournant esthétique, narratif et surtout éthique, que vit Hergé à ce moment-là et qui donnera à ses albums une couleur de plus en plus documentaire. Tintin, depuis le début, a été repris en France dans Cœur vaillant, mais il n'est pas la vedette de Cœur vaillant. Cœur vaillant est un journal largement aussi catholique que le XXe siècle, mais avec finalement un souci familial ou familialiste plus puissant qui fait que l'abbé Courtois, qui le dirige, demandera à Hergé de créer une autre série, commandera une autre série, Josette et Joko, on pourrait dire un peu l'équivalent de Zig et Puce et Alfred, deux enfants et un petit singe. Et c'est cette série-là qui a toujours les honneurs de la couverture dans Cœur vaillant, alors que Tintin est confiné à l'intérieur du journal, comme si le rapport d'importance des deux séries s'était inversé. En France, Hergé ne bénéficie pas du tout de la même position dominante qu'en Belgique. Cœur vaillant est un journal relativement minoritaire et il va bientôt être confronté à l'arrivée de bandes dessinées traduites, dont Mickey. Mickey arrive d'abord sous forme d'album, évidemment complétant les dessins animés. Ce qui est très amusant, c'est de voir que ces albums obéissent dans un premier temps à la logique du récit illustré. On est vraiment dans le livre d'enfant, dans la légende, dans une forme assez ancienne qui n'était pas celle de Disney, mais qui semblait plus recevable pour le public français, toujours plus attaché que le public américain ou le public belge à une forme assez littéraire. Quand Tintin d'ailleurs avait commencé à paraître dans Cœur vaillant, les responsables du journal y avaient ajouté des légendes, persuadés que le système de la bande dessinée à ballon ou à bulle n'était pas compréhensible. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que l'ajout de ballons dans une bande dessinée à bulles créait un système confus et à peu près illisible. Et donc, on sent très bien qu'il reste, dans une grande partie de la presse française, une résistance par rapport à la forme bande dessinée. On parle ici d'albums illustrés, donc c'est une publicité Hachette du milieu des années 30. On parle d'albums illustrés pour les enfants. Bien sûr, la formule bande dessinée n'existe pas à l'époque, mais on voit très bien qu'on essaie d'intégrer même des bandes dessinées américaines à un module plus traditionnel. Il va toutefois y avoir un homme qui jouera un rôle décisif dans la transformation du paysage de la bande dessinée en France, c'est Paul Vinclair, un homme d'affaires brillant qui est le premier au monde à créer un journal entièrement dédié aux personnages de Disney. Le journal de Mickey, qui apparaît en France en 1934, le journal de Mickey n'est pas l'adaptation d'un journal américain. C'est véritablement une initiative française qui va connaître évidemment un succès considérable, qui bouleverse la presse enfantine française et qui va, à côté des personnages de Disney, accueillir bien d'autres séries et surtout créer la vogue, créer le goût de bandes dessinées à l'américaine. Nous verrons plus tard, enfin je n'aurai pas vraiment le temps de l'évoquer, mais dans les années 60 se développeront les premières associations de bédéphiles, le Célègue notamment, qui célébrera les littératures graphiques et qui évoquera un âge d'or de la bande dessinée. Et cet âge d'or, c'est celui de la fin des années 30, de ces journaux qui ont fait arriver Popeye, Mandrake, Tarzan et bien d'autres dans la presse française. En effet, le succès de Mickey, très vite, crée des émules, et donc la deuxième moitié des années 30 voit abonder les adaptations plus ou moins réussies, plus ou moins volontaristes de grands classiques de la BD américaine, Flash Gordon devenant Guy l'Éclair, Popeye restant Popeye, Mandrake restant Mandrake. On voit aussi Prince Vaillant et bien d'autres qui donc se popularisent extrêmement vite, dans des supports qui ne sont plus des supports généralistes, comme aux États-Unis, mais bien des supports orientés d'abord vers le public enfantin. Hourra, Junior, vous le voyez, avec des phénomènes qui seraient intéressants à observer d'altération plus ou moins grande de l'original pour faire rentrer cela dans un moule, mais malgré tout, une façon de renouveler la manière de raconter, de séduire un public enfantin avec quelque chose qui n'est pas forcément édifiant, moralisant, et surtout qui ne porte pas le poids d'un texte explicatif, ce qui générera de l'émulation en France avec cette première bande dessinée de science-fiction, Futuropolis. Futuropolis qui donnera beaucoup plus tard son nom à une maison d'édition indépendante, mais dont vous remarquez ici une forme d'audace, de modernité dans l'usage de la page, une liberté qui est bien loin des anciens modèles francophones. Mais aux États-Unis, c'est déjà autre chose qui est en train de se faire, et je suis obligé de l'évoquer, même si mon histoire est surtout celle de la bande dessinée francophone, dans la mesure où ces personnages que j'évoque vont rejoindre bientôt les mythologies francophones, vont avoir une influence à travers le monde entier et l'Europe entière. Donc 1938, c'est l'année de création de Superman, qui apparaît d'abord dans Action Comics et qui se verra bientôt dédier son petit fascicule. Je ne vais pas vous faire une histoire des comic books, j'évoque juste ici au passage Detective Comics. Il est très intéressant de s'attarder un instant sur cette formule, sur cette expression de comic books. En effet, nous qui nous occupons de la bande dessinée entre la presse et le livre, nous pourrions penser qu'on est là du côté du livre. Or, il n'y a pas de book, il n'y a pas de livre. Il y a des petits fascicules de 32 pages, extrêmement bon marché, difficiles à conserver. Ce pourquoi, d'ailleurs, ils font la joie des collectionneurs à des prix extrêmement élevés. Ce n'est pas un support de conservation. On est dans un produit intermédiaire entre la presse telle que nous la connaissons en France, avec sa page hebdomadaire ou sa double page hebdomadaire consacrée à tel ou tel héros, et le livre tel qu'il existe aussi à la même époque et qui, lui, est généralement cartonné, offert à l'occasion des fêtes à un prix relativement élevé. Le comic book est une forme très populaire qui va longtemps permettre aux super-héros d'avoir des carrières extraordinaires, mais en marge du monde de la librairie. 1938, c'est l'année où le petit 20e fête ses 10 ans. 10 ans de solitude glorieuse pour Hergé, qui a pu développer son œuvre en toute tranquillité et acquérir une stature en Belgique, en Suisse, un peu en France, au Portugal, acquérir une stature unique. Et c'est le moment où, probablement grâce à l'importance du succès d'Hergé, grâce à la place qu'il a prise, à l'enthousiasme que ses récits suscitent chez les lecteurs, c'est le moment où un éditeur de Marcinelle, près de Charleroi, éditeur de presse, lance lui aussi un journal, le journal de Spirou, avec une configuration très différente de celle du petit 20e, puisque très rapidement, Hergé est devenu le propriétaire de Tintin et le gère et pourra le faire vivre hors du petit 20e quand il le faudra, alors que les créateurs du journal de Spirou sont les propriétaires et les seuls propriétaires du personnage mascotte du journal, qui passera de dessinateur en dessinateur avec des débuts que nous connaissons sous la signature de Rob Vell. Nous assistons à la création, à la naissance de Spirou dans le premier numéro de l'hebdomadaire, et il connaîtra bien des tribulations, rencontrant peu à peu Fantasio et bien d'autres, et vivant ce destin extraordinaire jusqu'à aujourd'hui et aux reprises brillantes par Émile Bravo après tant d'autres aventures. Du côté d'Hergé et du côté de la situation de l'Europe, ça sent un peu le roussi, les rumeurs de guerre étaient fortes depuis longtemps. Vous remarquez que pour l'an 40, Hergé souhaite, espère, la paix, une paix un peu consensuelle, rassemblant différentes forces. Il est neutraliste au moment où la Belgique est envahie par les troupes nazies. Le journal Le Petit 20e disparaît. Hergé, après quelques mois en France, revient. Et nous avons cet effet de continuité absolument hallucinant entre le petit 20e, le journal d'avant-guerre, et le Soir Jeunesse, supplément d'un grand quotidien devenu collaborationniste, puisque c'est ce qu'on appelle en Belgique le soir volé, le soir sous contrôle allemand, qui glisse un petit supplément exactement de même taille que le petit 20e, espérant capter énormément de lecteurs, mais gagnant surtout à Hergé qui a accepté de rejoindre ce journal, lui gagnant un nouveau public qui ne sera pas pour rien dans le décollage de Tintin. Cette formule Tintin et Milou sont revenus peut évidemment être lue dans plusieurs sens. Bien sûr, c'est Hergé qui est revenu, qui est rentré en Belgique, mais ce revenu veut comme effacer la césure historique, nous donner l'impression que ce sont les mêmes personnages dans le même journal et qu'on est là dans un environnement rassurant, loin de toute propagande fétide. Hergé s'éloigne de l'actualité, il était très engagé, Lotus Bleu, le sceptre d'Ottokar aussi, et il va se concentrer sur son propre univers pendant les années de guerre, faisant notamment apparaître le capitaine Haddock et bientôt Tournesol, le château de Moulinsart, Nestor et d'autres. Mais évidemment, Tintin, dans ce journal, d'abord dans le petit supplément, puis sous forme de simple strip dans un journal en proie, malgré les appuis politiques à la pénurie de papier, Tintin cohabite, coexiste avec un rédactionnel assez immonde, tandis que Spirou ruse avec la censure, apparaît, disparaît, change de nom, devient l'espiègle au grand cœur au moment où Spirou est censuré, crée un almanach beaucoup plus épais, arrive à faire vivre un certain nombre de ses personnages clés, non seulement Spirou, mais vous les reconnaissez peut-être, Tiff et Tondu, qui sont déjà là, à cette époque. Et donc, Spirou, qui est dirigé par un tandem assez curieux entre Paul Dupuis, très catholique et très traditionnaliste, et le rédacteur en chef Jean Doisy, qui est communiste et résistant. Spirou arrive à traverser la guerre sans trop se compromettre, mais avec une parution très irrégulière. D'autres journaux sont davantage liés au monde collaborationniste, mais ce ne sont que des journaux pour la jeunesse, est donc un peu moins marqué politiquement. Et Bravo, qui publiait les aventures du Flash Gordon d'Alex Raymond, ne reçoit plus les pages américaines, n'est d'ailleurs plus autorisé à publier la moindre bande dessinée américaine, et un chanteur d'opéra sans travail, Edgar Pierre Jacobs, reprend et imite le dessin d'Alex Raymond assez habilement pendant quelques semaines, clôt l'histoire Weikewagen, et puis invente pendant l'occupation sa première bande dessinée personnelle, Le Rayon U, dans un format carré assez inhabituel, avec un usage de la couleur tout à fait remarquable, un usage de la page très libre, beaucoup plus affranchi des canons du réalisme que le travail d'Hergé ou celui de Rob Vell. Et il va donc faire la connaissance d'Hergé pendant l'occupation et rejoindre après un certain temps Hergé pour l'aider dans la mise en couleur. En effet, et c'est un événement important, les éditions Casterman, en proie à des difficultés d'approvisionnement de papier tout à fait considérables, ont demandé à Hergé de réduire la pagination de ses albums, qui étaient libres avant-guerre, mais on était en noir et blanc. Et là, pour utiliser une machine offset acquise récemment par l'imprimerie, édition et imprimerie sont très liées chez Dupuis comme chez Casterman, lui demande de réduire ses albums à 64 pages, dont 62 utiles, 64 pages, c'est-à-dire 4 cahiers de 16 pages. Hergé résiste à l'arrivée de la couleur, ce sont des dialogues réguliers, des réunions nombreuses entre les responsables de la maison, Charles Laine, Louis Casterman et Hergé, qui aboutissent à cet objet qui sera, nous le verrons, le standard de l'album de bande dessinée européen pendant de longues années. Il est intéressant de voir que même la technique de coloriage, cette technique qu'on aujourd'hui presque révolue, qu'on appelle le bleu de coloriage, qui consiste à faire un tirage en bleu-gris au format de parution sur lequel on superpose un film avec le trait noir, cette technique inventée à ce moment-là va être reprise dans les journaux Tintin et Spirou après-guerre comme la technique de référence, comme la plus utilisée, la plus utilisable. En France, la bande dessinée, qui avait été très patriote pendant la Première Guerre mondiale et globalement très pétiniste, ou parfois pire, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour paraître, elle a besoin d'autorisation, mais elle en remet quelquefois dans le collaborationnisme, dans la propagande. Ça sera le cas de la revue Le Téméraire, revue importante, à diffusion importante, que Pascal Horry avait décrite autrefois dans un livre célèbre comme « Le petit nazi illustré ». Et voici qu'un exemple de bande dessinée purement et violemment, viscéralement antisémite et haineuse. D'autres bandes dessinées s'en prennent aux résistants qualifiés de terroristes, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer. C'est une presse abondante qui sera très peu épurée après la guerre, parce que moins épurée d'ailleurs en France qu'en Belgique, parce qu'on considère que cette presse pour la jeunesse est somme toute relativement négligeable et que les illustrateurs n'ont pas véritablement d'idées, ce qui permettra à bon nombre d'entre eux de passer à la libération du Téméraire à Vaillant hebdomadaire du Parti communiste. Mais heureusement, certains sauvent l'honneur, dont le très célèbre Calvo, avec ce chef-d'œuvre bien connu, quoiqu'il ait un usage particulier, nous allons le voir, de la bande dessinée, La bête est morte, un livre dont nous pourrions dire qu'il anticipe les principes du chef-d'œuvre du roman graphique Maus de Art Spiegelman, puisque déjà c'est un traitement animalier de la Seconde Guerre mondiale et de ses horreurs. C'est un album qui est commencé pendant la guerre et dont le deuxième tome paraît juste après la fin de la guerre, et donc un récit sur le conflit mondial, réalisé quasiment en direct à partir de grandes images. Et vous le voyez, ces grandes images, ce système narratif qui hésite entre plusieurs formes, une forme presque à la Rabier et une forme où l'illustration explose et déborde, mais continue à s'appuyer sur un texte qui n'y entre pas tout à fait. Il y a, et c'est un phénomène qui mérite d'être analysé, d'être compris, il y aura jusqu'à la fin des années 60 une sorte de tradition littéraire et bavarde dans la bande dessinée française qui la conduira à s'appuyer très souvent sur des œuvres littéraires pour les adapter et à laisser dans une portion congrue le langage de la bande dessinée telle que les Américains ou les Belges l'utilisent. À la libération, la bande dessinée continue, la bande dessinée se développe. Cette fois, on lutte et quelquefois ce sont les mêmes auteurs qui réussissent assez vite à retourner leur veste et qui, cette fois, défendent Maquis contre SS et autres bandes dessinées d'aventure. Et donc Vaillant, lancé dès 1945, va avoir une très longue vie jusqu'en 69, jusqu'à l'apparition de Pif qui le prolongera. Et Vaillant développera toutes sortes de séries remarquables comme Les Pionniers de l'Espérance, mais aussi des séries plus humoristiques comme Placide et Museau du dessinateur espagnol Arnal. Vaillant sera, disons, fera de la bande dessinée patriote et à tendance populaire, à tendance progressiste, un peu comme d'autres journaux faisaient de la bande dessinée à tendance catholique et éducative, plus traditionnelle. Dans les deux cas, les auteurs auront quand même l'habileté et l'intelligence d'aller au-delà de l'idéologie apparente du journal et de faire surtout des bandes dessinées divertissantes, séduisant bien au-delà de leur camp. Du côté de Vaillant, il faut le noter, j'en reparlerai un tout petit peu, j'en parle plus longuement dans le petit livre « La bande dessinée entre la presse et le livre », on privilégie absolument la forme presse et les auteurs, au fil des ans, souffriront du fait que seules quelques séries humoristiques, comme Placide et Museau, ont les honneurs de l'album. Toutes les grandes séries d'aventures qu'on va trouver dans Vaillant n'auront pas d'édition en album et disparaîtront peu à peu des mémoires. C'est un phénomène tout à fait étrange, nous l'avions évoqué à propos du 19e siècle, que de voir que l'histoire de la bande dessinée est l'histoire des vainqueurs, et les vainqueurs sont ceux qui ont eu l'album. Et ceux qui n'existaient, et pendant longtemps ce fut le cas d'un immense dessinateur comme Paul Gillon par exemple, ceux qui n'existaient qu'à travers la presse, ont souffert d'une perte de mémoire, d'une perte de continuité de leur travail. Ce n'était pas le cas d'Hergé, qui, avec Casterman, avait, de manière très consciente et très programmée, préparé l'après-guerre. Dès 1942, on sent que la guerre va s'achever, qu'il y aura un appétit énorme de lecture et de divertissement chez les enfants. Et donc, on arrive, alors même qu'Hergé a eu quelques ennuis post-libération, a été victime mineure de l'épuration, il arrive très tôt avec une dizaine d'albums dont la nouveauté est tout à fait mise en exergue par cette affiche et cette brochure célèbre chez les tintinophiles, « Bonjour, monsieur le libraire », et donc tout à fait amusante, c'est « Moi, Tintin, l'ami des enfants, ah oui, je suis venu vous montrer toute ma collection d'albums, les voici. » Et donc on présente les albums comme quelque chose de neuf, comme quelque chose d'autre. On l'ouvre, même le dépliant permet de découvrir les pages et le libraire dit « Pas mal, vraiment pas mal, après tout je ferai bien un essai, à qui dois-je m'adresser, etc. » Bon, donc Tintin lui-même vend ses albums après avoir soutenu le petit 20e et il est appuyé par l'hebdomadaire à son nom créé en Belgique en 1946 qui pendant les deux premières années n'existe qu'en Belgique, dont il occupe la page centrale avec Temple du Soleil, mais il est concurrencé par son ancien collaborateur, au sens tout à fait neutre du terme, Edgar Jacobs, qui l'a aidé, qui l'a conseillé pour la mise en couleur, et qui crée sa propre série, Blake et Mortimer, qui aura le succès que l'on sait, et qui prend un ton plus adulte, plus grave, qui traite peut-être davantage du monde de cette immédiate après-guerre, qui va craindre très vite une troisième guerre mondiale, qui va entrer dans la guerre froide, à travers le secret de l'Espadon. Jacobs remportera un succès chez un lectorat un tout petit peu plus âgé, qui rendra Hergé assez jaloux. D'autres auteurs sont présents dès le début, dont le très jeune Paul Cuvelier, qui seront bientôt rejoints par d'autres comme Jacques Martin. Jacques Martin, c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est un auteur français qui va venir s'installer en Belgique parce que le foyer de création est beaucoup plus important. Uderzo, Goscinny, plus tard, subiront cet effet d'attraction de la petite Belgique francophone par rapport à la France. Un vrai marché se développe assez vite. En 1948, avec l'appui d'un certain Georges Dargaud, Tintin connaît une édition française et il est amusant de voir qu'on fait une couverture à la française avec Leclerc et qu'à l'intérieur, on développe une bande dessinée à la française aussi, c'est-à-dire très légendée, qui coexiste avec les bandes dessinées belges habituelles. Il y aura d'ailleurs, et c'est un phénomène amusant, il y aura une tentative dans l'hebdomadaire Tintin, comme dans l'hebdomadaire Spirou, d'effacer les traces de belgité, de proposer une sorte de neutralité ou d'internationalité, alors que chez beaucoup de lecteurs de l'époque se développera un goût de cette Belgique non dite, de ses signes, de son architecture, de ses uniformes créeront bien plus tard le goût de la ligne claire et notamment l'œuvre d'un Yves Chaland, toute nourrie de cette Belgique imaginaire. En attendant, Hergé a beau avoir un hebdomadaire à son nom, il est en pleine dépression, l'hebdomadaire est en ascension en 48 avec cette édition française et Hergé multiplie les fugues, obligeant le journal à créer une sorte de fausse nouvelle, de fausse blague, d'enquête. Mais cette fois, ce n'est plus Tintin que l'on recherche, ce n'est plus l'aventure de Tintin que l'on est en train d'élucider. C'est Hergé lui-même qu'il s'agit de retrouver. Et le pauvre Hergé est amené à se dessiner lui-même, ramené par ses personnages. C'est hélas la triste vérité. la survie du support de presse et l'homme de presse important qu'est Raymond Leblanc oblige Hergé à continuer à dessiner ce dont il n'a plus véritablement envie, et il se lancera dans la grandiose aventure de la Lune dès 1950. Du côté de Spirou, la grande figure qui est là depuis la fin des années 30, c'est Joseph Gillin, dit J.G., qui est un dessinateur un peu oublié aujourd'hui, un virtuose, admiré d'ailleurs par beaucoup, beaucoup de dessinateurs, un virtuose parce qu'il est capable de dessiner les aventures de Spirou et Fantasio, il est capable de dessiner le feuilleton de Valardi, il est passionné avant tout par la bande dessinée religieuse, et c'est Don Bosco qui le préoccupe bien plus que Valardi ou Spirou, mais c'est aussi un homme extrêmement généreux qui, dans sa maison des environs de Bruxelles, accueille des jeunes gens venus du dessin animé, et on reconnaît notamment à gauche André Franquin et au milieu Maurice de Bévereux, futur créateur de Lucky Luke. Ils sont hébergés chez lui, et au moment où Jigé, qui appréhende une nouvelle guerre et surtout une pénétration des communistes en Belgique, part aux États-Unis pensant qu'il va travailler main dans la main avec Walt Disney et les grands studios. Il est assez amusant de penser qu'ils arrivent avec non seulement Jigé, Franquin, Maurice, mais toute la famille de Jigé, les nombreux enfants, dans une automobile démesurée. Ils arrivent à New York pensant que Walt Disney s'y trouve, quelques informations leur manquaient. Ils vont donc traverser tous les États-Unis, puis, voyant qu'ils ne perceront pas dans le monde hollywoodien, partir jusqu'au Mexique, tandis que tous les trois, Franquin, Maurice et Jigé, envoient leurs planches en Belgique. C'est une aventure extravagante qui fait partie de la mythologie de la bande dessinée belge. Donc voici Blondin et Cirage. Il ne faut pas juger cette bande dessinée uniquement sur son titre. Blondin et Cirage au Mexique. Alors, on n'est pas vraiment dans le politiquement correct, et pourtant, quand on la lit, c'est plutôt moins grave que d'autres. Mais nous avons aussi une nourriture pour Jerry Spring, la grande série western qui influencera considérablement plus tard un certain Jean Giraud, qui sera lui aussi un des élèves de Jigé. Et le western va être traité sur un autre mode par le tout jeune Maurice, qui est scénariste et dessinateur des premières aventures de Lucky Luke, avant de rencontrer aux États-Unis, au cours de ce voyage, un certain René Goscinny. Personnage aussi important dans le monde de Dupuis, ou plutôt de l'agence de presse, la World Press, bien pompeusement nommée, car elle n'occupe qu'une petite chambre d'étudiants à Liège les premiers temps, la World Press fournit en scénario le journal de Spirou, et un certain Jean-Michel Charlier montre toute la prolixité de son talent, crée Bugdani avec Victor Hubinon, devient même pilote d'avion pour raconter des aventures de manière crédible. On est là dans une capacité feuilletonnante que Charlier illustrera toute sa vie avec toutes sortes de séries, Barbe Rouge, Surcouf et quantité d'autres, plus de 500 scénarios. Il lui arrivait, je l'ai connu à la fin de sa vie, de s'en mêler quelque peu entre ses personnages, d'envoyer une page d'un scénario à un dessinateur qui n'était pas destiné à la recevoir, perpétuellement en retard, mais perpétuellement enthousiaste. C'est aussi ça, ce souffle de l'aventure qu'il va y avoir dans Spirou comme dans Tintin, l'un des hebdomadaires semblant plus centré sur le sérieux et le dessin réaliste, Tintin, l'autre plus tourné vers l'humour, mais beaucoup de séries, finalement, auraient pu paraître dans l'un ou l'autre des hebdomadaires, et beaucoup de lecteurs de l'époque, de jeunes lecteurs, comme je l'ai été moi-même, passaient d'un hebdomadaire à l'autre, en les sentant beaucoup plus comme complémentaires que comme rivaux. À côté de cette presse légitime, prônée par les éducateurs bien reçus par les parents de ces bandes dessinées, bien finies, assez propres, même si quelquefois leurs contenus sont plus surprenants. Il existait des petites publications plus brutales, plus populaires, plus fantastiques, jouant un peu davantage avec la violence, avec un peu d'érotisme aussi, qui susciteront des protestations extraordinaires, permettront aux catholiques et aux communistes de se rassembler pour faire voter une loi, la loi fameuse du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Pour en savoir plus là-dessus, je vous renvoie à ce livre. On tue à chaque page. Aux États-Unis, il y aura des débats encore beaucoup plus graves quelques années plus tard. On brûlera des comics, il y aura des autodafés importants. Mais cette loi va peser, d'abord va peser sur l'importation de bandes dessinées. Ce sera un bon prétexte pour arrêter un certain nombre de publications américaines, mais pèsera aussi quelquefois sur la bande dessinée belge et même sur la bande dessinée française pour éviter la représentation d'armes à feu, les soupçons d'érotisme qui pouvaient s'y glisser, personnages féminins étant rarissimes dans cette presse pour enfants, surtout destinée aux garçons. Et l'on voit ainsi qu'une tradition finalement un peu plus conforme, un peu plus sage, illustrant souvent des grands textes littéraires, se développera ces années-là dans la bande dessinée française. En Belgique et en France, le journal Tintin prospère tant et si bien, avec les timbres Tintin qu'on peut échanger ou chèque Tintin, conduisent Raymond Leblanc à créer bientôt un immeuble entièrement dédié à ses activités, surtout de presse, un peu d'albums, mais l'album, dans ce qui s'appelle les éditions du Lombard, n'est que secondaire. Et ce qui l'intéresse finalement, Leblanc, au-delà de la presse, c'est plutôt les développements vers le dessin animé, dans lequel il se lancera très tôt, inventant son studio. Hergé s'est stabilisé, avec désormais toute une équipe autour de lui, l'étrange étant que l'équipe d'une dizaine de personnes des studios Hergé produira moins d'albums avec toute cette équipe qu'Hergé seul n'en produisait avant la guerre. Mais la gloire est là, Tintin s'exporte, il est l'ambassadeur de la bande dessinée belge, le voici sur le toit de l'immeuble Tintin, tandis que tournoient dans la nuit les silhouettes de Tintin et Milou. Il est un symbole de la Belgique, comme l'Atomium, l'Expo 58, qui coïncide exactement, première exposition internationale universelle de l'après-guerre, qui coïncide essentiellement avec cet esprit un peu optimiste, triomphant et joyeux, l'idée de l'atome comme un vecteur de progrès, qui nous paraît aujourd'hui un peu étrange, baigne notamment les albums d'André Franquin et les aventures de Spirou et Fantasio. Franquin a repris Spirou du jour au lendemain, à un moment où Jigé était occupé par quelques bondieuseries, et il n'a pas eu le sentiment d'hériter d'une grande responsabilité. Il n'empêche qu'il va donner à Spirou une nouvelle identité, une nouvelle force, développant tout au long des années 50 et surtout 60, des albums remarquables, des albums d'aventures humoristiques, inventant bientôt ce personnage extraordinaire du Marsipilami, même si, peu à peu, il sera gagné par une certaine humorosité, certaines mélancolies à l'idée que ces personnages, à l'exception du Marsipilami, ne lui appartiennent pas et que quelque chose lui pèse dans le fait de devoir animer année après année des personnages qui ne sont pas tout à fait les siens, qui ne correspondent peut-être pas à sa maturation progressive. Alors, Franquin, qui, bien plus que Jigé, s'est imposé comme la figure majeure de Spirou, va créer un personnage à lui, un personnage sans emploi au départ, un anti-héros, Gaston, dont on sait toute la carrière et toute l'importance. Mais d'autres auteurs, et je ne peux pas les évoquer tous en direct, mais comme Will, avec les scénarios de Rosie, qui fait vivre Tiff et Tondu, qui étaient des personnages, là aussi, appartenant au journal depuis le début, mais Peyo, Pierre Culliford, dit Peillot, animant la série de Jean et Pierre-Louis jusqu'au moment où, de manière amusante et insidieuse, s'y glissent des petits lutins, des petits nains, les Schtroumpfs, qui raviront très vite la vedette, notamment grâce à leur langage. Car beaucoup de ces bandes dessinées, par-delà leur drôlerie, sont des réussites langagières. Il y aurait beaucoup à dire et à écrire sur ce phénomène qui, de Tintin à Astérix, en passant par les Schtroumpfs, en fait des lieux d'invention linguistique continue. Des romans policiers pour jeunes, avec Maurice Tilleux et Gilles Jourdan, une sorte de Simenon de la BD qui génère des atmosphères tout à fait remarquables et tire peu à peu ce journal vers un lectorat un tout petit peu plus âgé. Pourquoi ? Eh bien parce que quelques auteurs qui avaient eu le tort de vouloir défendre leurs droits et leurs intérêts par rapport aux agences et aux patrons de presse, j'ai nommé Uderzo, Charlier et Goscinny, qui ne sont pas encore des vedettes, ces quelques auteurs ont été chassés, quasi de Belgique, en tout cas des journaux dans lesquels ils publiaient, et décident rapidement de créer, on est en 1959, un hebdomadaire qui va faire bouger solidement et considérablement la bande dessinée franco-belge, peut-être la faire passer d'une bande dessinée plutôt belge à une bande dessinée plutôt française. Et l'on sait que dès le premier numéro, on le sait suffisamment pour l'instant, Astérix le Gaulois s'y impose. Uderzo et Goscinny ont déjà travaillé ensemble, ont déjà produit abondamment. Goscinny a été marqué par son séjour américain, par le journal satirique Mad, mais il va mettre longtemps à pouvoir réaliser un Mad à la française, un Mad pour plus jeunes lecteurs. Il va lui falloir le succès. Et le journal pilote, il ne faut pas s'imaginer que c'est tout de suite un journal révolutionnaire, c'est un journal finalement assez bon enfant. Au début, c'est un journal dont le public n'est pas fondamentalement différent de celui de Spirou et Tintin, mais qui, en quelques années, va avoir la capacité à évoluer. Alors, on voit ici, c'est amusant de voir une couverture avec une photographie au début du journal. C'est amusant de voir Pilote, vers 62, s'essayer à être un journal, on pourrait dire yéyé pour les petits, avec Johnny qui compte plus que les dessinateurs qu'on pourrait trouver à l'intérieur. Mais évidemment, il y a, et là, c'est un phénomène d'abord de presse, mais très vite de livres, il y a ce succès d'Astérix, qui finalement est peut-être la première bande dessinée après Tintin à connaître vraiment un succès en album absolument considérable. On sait que le premier volume d'Astérix s'était vendu à peu près à 6000 exemplaires, que le deuxième fait 12 ou 13 000, le troisième 25 000, et que très rapidement, on arrive à des chiffres sensationnels. Les albums n'ont plus 64 pages, comme ceux d'Hergé, de Jacques Martin, de Jacques Cobbs, Jacques parfois plus. Ils ont 48 pages, c'est-à-dire 46 pages utiles, un nombre d'images un peu plus réduit par page, un dessin, celui du Derzo, virtuose et un peu plus rapide, qui va permettre de publier deux albums par an et d'atteindre en 1966 un succès qui bouleverse tout le paysage de la bande dessinée, c'est-à-dire qui donne le sentiment que par-delà le succès d'hebdomadaire pour enfants, il y a la possibilité de toucher un public très large, un public familial. Et à ce moment-là, on peut dire, avec le succès d'Astérix vers 66, commence à s'imposer l'idée que l'album de bande dessinée, un album qui n'a plus forcément à être souple et bon marché, que l'album de bande dessinée devient véritablement un vecteur à égalité pendant un certain nombre d'années, avec la presse. Nous voyons ici Goscinny aux côtés de Maurice, et Maurice a quitté Dupuis pour rejoindre Pilote et Dargaud parce que les éditions Dupuis refusaient de passer ses albums en cartonné. Il avait des albums souples, donc bon marché, donc à droit d'auteur faible, et là, tout d'un coup, il a la possibilité, le succès d'Astérix aidant, Goscinny étant son scénariste, il a la possibilité de passer au carton. C'est une dignité nouvelle, c'est une marche vers le livre. Goscinny n'est pas seulement l'auteur du Petit Nicolas avec Sempé, le scénariste remarquable d'Astérix, Is No Good, Lucky Luke et d'autres séries. C'est aussi un rédacteur en chef exceptionnel. Et c'est un rédacteur en chef d'autant plus exceptionnel qu'il va être visionnaire bien au-delà de son propre style, de sa propre production, accueillant et encourageant, par exemple, les aventures du lieutenant Blueberry, de Giraud, scénarisé par Charlier, mais un Charlier qui s'essaye à un genre un petit peu plus adulte, et un Giraud qui va s'émanciper de plus en plus graphiquement. Il accueille aussi et il défend avec énergie le Philémon de Fred, série merveilleuse et poétique, assez risquée, que les lecteurs n'acceptent pas tout de suite. Et Goscinny a cette idée que chaque année, il peut imposer au lecteur un nouvel auteur, un nouveau style, un nouvel univers. C'est ainsi qu'il va accueillir aussi la série Valérian de Mézières et Christin, qui devient bientôt Valérian et Laureline, avec une des premières héroïnes importantes de la bande dessinée française. Il a vu paraître chez Losfeld le premier livre d'un certain Philippe Druillet, encore maladroit, et même s'il avoue ne pas comprendre grand-chose à ces histoires, il a l'impression que Pilote peut aussi accueillir un travail graphique comme celui-là, un certain éclatement. Il collabore lui-même avec Gottlieb avant d'accueillir un Gottlieb en liberté qui fait la joie des lecteurs avec un esprit là très proche du MAD américain. Il accueille Cabu et son grand Duduche et il donne sa chance à une jeune dessinatrice, une des premières qui se morfondait un peu dans Spirou, Claire Bretécher, qui va devenir un des personnages clés de l'aventure de Pilote et bien au-delà assez rapidement. Alors, ce n'est pas une époque très facile pour les femmes en bande dessinée. On peut imaginer que Bretécher, dans cette rédaction entièrement masculine de Pilote, pouvait avoir du mal, mais son talent et son tempérament puissant lui ont permis d'exister. C'est aussi le moment où des audaces se glissent dans des livres de bande dessinée, à commencer par ce que publie Le Terrain Vague, Eric Losfeld, et le succès tout à fait remarquable de Barbarella, de Jean-Claude Forest. Il est amusant ici d'observer dans ce livre, manifestement destiné aux adultes, ce livre cher, bien réalisé, de voir le détournement ou le retournement de l'esthétique pop, et du travail de Warhol et Lichtenstein qui s'étaient nourris de la bande dessinée, et nous voyons ici très bien Forrest et son éditeur rendre la monnaie de sa pièce au pop art. Et donc voici une des pages de Jean-Claude Forrest, un personnage important de l'époque, l'un de ceux qui, à petit pas, fait entrer de l'érotisme, mais aussi un personnage féminin fort dans le monde de la bande dessinée. Et au même moment, parce que les contacts entre l'Italie et la France sont considérables à cette époque, pour le cinéma comme pour la littérature et la bande dessinée, Crépax qui arrive avec Valentina notamment, et une manière d'aborder la page de bande dessinée tout à fait autre, et évidemment une orientation très clairement adulte de la narration. Ceci ne se passe pas dans la presse. On est vraiment là dans un monde du livre qui reste marginal, mais qui prépare une révolution, une mutation qui aura lieu bientôt. 1967, c'est aussi le moment de la première grande exposition sur la bande dessinée au Musée des Arts Décoratifs, bande dessinée et figuration narrative. La figuration narrative, c'est une légitimation par les tableaux, la peinture, mais c'est le moment où ceux qui ont grandi avec la bande dessinée américaine la célèbrent et nous font découvrir une autre tradition, une autre manière de raconter, et où l'on commence à parler, même dans les pages de Spirou, de 9e art. Où la bande dessinée, expression qu'Hergé n'utilisait pas pendant longtemps, la bande dessinée existe désormais comme telle et est rebaptisée par Lacassin et quelques autres 9e art. Mais aux États-Unis, on est déjà plus loin, puisque un certain Robert Crumb, en 67, lance Zap Comics, qui ouvrira le champ, la place à toute une bande dessinée underground, dont les auteurs du monde franco-belge ont peu à peu des échos et peut-être le désir de créer quelque chose d'équivalent. Voici une photo assez caractéristique de l'équipe de pilotes juste après 68. On peut noter plusieurs choses, on pourrait même en noter beaucoup si on avait plus de temps. D'abord, Goscinny, toujours en costume cravate, a connu un succès considérable et est remis en cause violemment dans une scène restée célèbre, dans un café non loin d'ici, est remis en cause violemment par la plupart des auteurs qu'il a contribué à faire émerger. C'est une blessure très forte et il commence à ce moment-là à prendre du recul par rapport à Pilote et à se concentrer davantage et sur son œuvre et sur le cinéma. Ensuite, vous remarquez un pêle-mêle d'auteurs entre les plus sages, les plus traditionnels, les cravatés, par exemple Charlier tout à droite, qui a des fonctions très importantes dans Pilote, et puis Jean Giraud, assis à côté de Goscinny, chevelu, chemise ouverte, et Claire Bretéché, assise de l'autre côté, une nouvelle génération, quelque chose qui est en train d'arriver, et puis derrière, Fred Gottlieb, Mandrika et quelques autres, Mandrika avec la grosse barbe. La bande dessinée est un tournant, elle se cherche, elle garde quelque chose qui est du côté de l'enfance et de la nostalgie, elle lorgne vers d'autres horizons, d'autres possibilités. Pilote est toujours le journal d'Astérix et Obélix, mais quand on lit ce titre de la semaine, Blueberry sauvera-t-il son tortionnaire ? On se demande s'il ne s'agit pas quelque part de Giraud, qui a été l'un des plus virulents par rapport à Goscinny. Alors la bande dessinée ne se limite pas dans ces années 60 ou cette fin des années 60 à Pilote et à ses tourments. Greg, qui s'occupe du journal de Tintin depuis le milieu des années 60, a essayé de le faire évoluer, d'y introduire plus de violence, plus de second degré, quelques personnages féminins. Il travaille notamment avec Herman, il produit tellement Greg qu'il est obligé de recourir à plusieurs pseudonymes. La plupart des séries de Tintin sont faites par lui. Spirou continue, mais Gaston a pris plus de place que Spirou et Franquin est entré en assez longue dépression. En France, en 69, Pif Gadget a pris le relais de Vaillant et un look un peu plus moderne. Le personnage clé qui se crée à ce moment-là, c'est Rahan. Mais on accueille aussi les aventures du concombre masqué de Mandrika. Donc il ne faut pas croire que tout s'est inventé dans Pilote. Ce serait une illusion rétrospective. Presque tous les auteurs ont publié dans Pilote. Mais tout ne s'y est pas passé. Et même Hugo Pratt et son Corto Maltese apparaissent d'abord dans Pif. Pif le chien, Pif Gadget, où ils ennuient passablement la plupart des lecteurs. C'est aussi un moment où la presse, la grande presse, la presse généraliste, reste vivace et accueillante à la bande dessinée, et notamment François. François, qui est le plus grand quotidien français à l'époque, qui accueille signé Furax, avec un énorme succès, et aussi une série familiale, comme 13 rue de l'Espoir, dessiné par Paul Gillon. Paul Gillon me racontait, il y a pas mal d'années, qu'il était royalement payé pour le strip quotidien qu'il faisait, souvent en retard, et que quand il était en retard, François envoyait une limousine pour prendre livraison de son strip. C'est dire à quel point le journal pouvait encore le traiter comme un Balzac ou un Dumas au XIXe siècle, c'est-à-dire comme un élément essentiel de la valorisation du journal. Nous avons perdu beaucoup de ces bandes dessinées. Bon, 13 rue de l'Espoir a été édité tardivement par les humanoïdes associés, mais ce n'est pas là que s'est fait sa vraie notoriété. C'est une mémoire de journal et c'est une mémoire périssable. C'est l'équivalent des feuilletons, des soap opéras qui après sont passés à la télévision. Dans cette époque-là, dans la continuité de ce que l'Italie fait avec le mensuel Linus, va se créer Charlie mensuel, qu'on oublie parfois dans les histoires de la bande dessinée de cette époque, qui existe dès 1969, qui va être longtemps dirigé par Volinsky et qui accueillera aussi bien les Peanuts de Schulz, Crazy Cat de Herriman, que Crépax, ou Munoz et Sampaio, qui font là leur début avant d'aller chez d'autres éditeurs. Vous remarquez, entre parenthèses, la somptuosité, la pureté de ces couvertures. On a rarement fait aussi beau, pas de nom d'auteur, rien, une image triomphante, un usage extrêmement sobre de la couleur. C'est un moment, il y a un moment Charlie qui est véritablement important, avec une ligne graphique très très proche de Linus. Il faut se souvenir aussi que c'est dans cette période-là que va se créer le premier festival important, avant celui d'Angoulême, qui est celui de Lucca. Pilote doit bouger, on y voit des éléphants bleus, sinon des éléphants roses, on y absorbe probablement toutes sortes de substances, et on y accueille les effets de l'après 68, c'est-à-dire une bande dessinée liée à l'actualité, une bande dessinée plus mordante, plus politique, avec réserve. On y accueille des nouveaux talents, comme celui de Bilal, un jeune homme venu de Belgrade qui fera son chemin. On veut y bouger de toutes les façons, et il est amusant de voir que l'œuvre que nous considérons comme celle de Moebius et que nous associons très fortement à Métal Hurlant démarre en réalité dans Pilote avec La Déviation, un récit court qui contient l'essentiel de cette remise en cause graphique et narrative, de cette envie d'utiliser plusieurs styles dans une histoire, de ne pas respecter le strict découpage des cases, de pouvoir être bavard quand on veut l'être et muet quand on préfère l'être. C'est un incident que l'on doit en 72, la création de L'écho des savanes. En effet, Mandrika se fait refuser une histoire. La voici ici, une histoire sans titre, une histoire parfaitement zen et planante, dont la dernière réplique nous dit l'essentiel. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Rien, je regarde pousser les rochers. Goscinny, bien libéral, bien accueillant, trouvait que là c'était trop, qu'on allait perdre les lecteurs. Il a refusé l'histoire. Avec Gottlieb et Bretéché, ils se sont dit « on va créer, un peu à l'américaine, notre propre support, un trimestriel ». Il se trouve que Goscinny a pris tragiquement cette création de quelque chose qui aurait pu être complémentaire et que trois des talents majeurs de Pilote s'en sont allés. Donc une histoire sans titre, mais aussi un Gottlieb qui peut s'adonner à toutes les joies de la provocation et notamment de la scatologie qui sera un des éléments assez importants des débuts de L'écho des savanes. On imagine évidemment que Charlier et Goscinny et Monsieur Dargaud n'auraient pas accueilli cette histoire. Et donc voilà L'écho des savanes qui se développe et c'est une revue d'auteur. Mais ce qui est très important, c'est deux choses, l'affirmation de l'auteur plutôt que celle du personnage en même temps, l'affirmation du journal plutôt que celle du livre. C'est vraiment fondamental dans cette époque. Il y a un public pour une presse innovante. On fait beaucoup d'histoires courtes, beaucoup de choses en une page, beaucoup de matériel qu'on ne songerait absolument pas à reprendre. Quant à Claire Bretéché, très bientôt, c'est au Nouvel Obs qu'elle va trouver une place. Et elle restera dans une époque où la presse décline, où la presse généraliste s'intéresse peu à la bande dessinée, elle restera comme un fondamental du Nouvel Obs, comme la plus grande sociologue de son temps, dit un jour Roland Barthes, comme une figure essentielle d'une bande dessinée capable de toucher des publics très divers. Mais une fois qu'on a commencé à créer des supports, c'est un peu comme les groupuscules gauchistes, rapidement ils se séparent et se défont, Gottlieb part sur un coup de tête et fonde Fluide Glacial, où il va accueillir une bande dessinée d'humour, parfois un peu potache, assez bordante, mais aussi accueillir un Franquin à la fin de sa carrière, qui commence à se lasser non seulement de Spirou, qu'il a abandonné à d'autres, mais de Gaston, et qui va donner Les Idées Noires, qui seront un de ses chefs-d'œuvre. Cette même année 1975, une bande de joyeux lurons crée un autre trimestriel, c'est d'abord des trimestriels. Nous avons ici à gauche l'éphémère Farkas, le très mince et toujours bien vivant Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druillet et Jean Giraud Moebius, les fondateurs de Métal Hurlant. Un magazine où tout est possible, un magazine où l'on traduit des choses, des œuvres comme celle de Corben, où l'on accueille un récit à la fois intime et baroque, comme La Nuit de Philippe d'Orbillet, né d'un deuil, où l'on accueille le feuilleton invraisemblable qu'est le garage hermétique de Jerry Cornelius, où il s'agit de raconter une histoire qui peut prendre toutes les formes et d'user de la bande dessinée de toutes les façons, où l'on peut se libérer de la tendance au bavardage de Charlier avec un récit comme Arzac, réalisé en couleur directe, où l'on établit une passerelle avec le rock et un univers plus jeune, c'est le travail de Margerin et de bien d'autres, où l'on s'intéresse à des expérimentations graphiques, c'est un travail du jeune François Skuyten avec son frère Luc, où les femmes sont un peu plus nombreuses, et voici Chantal Montelier, toujours bien vivace aujourd'hui, et à l'époque déjà très remontée politiquement, qui, avec quelques autres, comme Nicole Claveloux, crée le premier magazine de femmes très éphémère à Nana, donc striptease masculin en couverture du premier numéro et un dossier homosexualité, transsexualité, changer de sexe qui n'avait comme défaut peut-être que d'arriver 25 ou 30 ans trop tôt. Le numéro suivant, consacré à l'inceste avec une couverture très provocante, a été fatal à cette revue Anana. La bande dessinée, tout de même, à coup de transgression, mais aussi avec un public qui grandit avec elle, part vers d'autres formes, et notamment ce qu'on va appeler bientôt le roman en bande dessinée, lorsque Hugo Pratt, qui a déjà publié énormément, mais n'a jamais eu de très grand succès, confie son travail à Casterman, d'abord pour des albums standards qui ne marchent pas, puis il y a l'idée de faire un gros volume de plus de 160 pages, en noir et blanc, souple, à la manière d'un roman. C'est La Ballade de la Mer Salée qui obtient un prix à Angoulême et lance un courant nouveau. On ne parle pas de roman graphique, on parle de roman en bande dessinée. À la même époque, Jacques Tardy, qui a publié une série intermédiaire, peu second degré, mais quand même dans une certaine continuité de la bande dessinée classique, cherche lui aussi à retrouver l'esprit d'une revue, et ce sera à suivre, qui accueillera dès son premier numéro, ici même, de Tardy et Forest. Grand feuilleton, journal voué d'abord au noir et blanc, journal qui a beaucoup compté pour moi, qui avait été marqué par la bande dessinée dans mon enfance, puis avait un peu décroché, et c'est avec ce numéro 1 à suivre que j'ai raccroché. Mais déjà, la tendance chez Casterman, c'est d'aller vers des livres plus que vers des journaux. Le journal, très vite, sera déficitaire, mais par contre, les livres qui en sortent, les romans à suivre, comme on les appelle, Silence de Comès, Le transpersonnage de Rochette et Loeb, impose une nouvelle idée plus littéraire de la bande dessinée et impose surtout l'idée que des livres de bande dessinée peuvent entrer dans les librairies. Casterman n'est pas le seul à le faire, et chez Darko, Les Phalanges de l'Ordre Noir, puis Partie de chasse de Christin et Bilal appartiennent exactement à la même démarche, en même temps que le dessin de Bilal est en train de se libérer et de partir vers une des grandes tendances de l'époque, plus picturale, la couleur directe. Bien sûr, il existe des formes plus traditionnelles de romanesque en bande dessinée, mais c'est aussi un public qui va s'attacher notamment aux Passagers du Vent de François Bourgeon, aux Sept Vies de l'Épervier et à bien d'autres séries qui apportent un souffle romanesque peut-être plus adulte que ce que Spirou et Tintin avaient longtemps proposé. L'Écho des Savanes est assez loin des projet du début, la bande dessinée n'y joue plus qu'un rôle mineur. Il est tout à fait frappant que l'érotisme ayant pris le dessus, les couvertures sont généralement photographiques, même il faudra vraiment Martin Véron et quelques autres séries à grand succès pour que la bande dessinée s'impose en couverture. Mais aux États-Unis se prépare quelque chose qui va être absolument déterminant et qui probablement est moins séparé de la tradition française qu'on ne pourrait le croire. En effet, le Festival d'Angoulême s'est créé, a remis son deuxième grand prix à un vétéran, le créateur du Spirit, Will Eisner. Will Eisner est à Angoulême l'année où La Ballade de la Mer Salée est primée. Et il est tout à fait amusant de voir que c'est peu après qu'il va publier A Graphic Novel, A Contract with God, en fait qui n'est pas un graphic novel parce que ce sont des histoires courtes, quatre histoires courtes, mais une nouvelle manière d'écrire la bande dessinée dans un nouveau format, avec toutes les libertés possibles, et un livre qui va être considéré rapidement aux États-Unis comme fondateur et fondamental. Il se trouve qu'en France, la tentative des humanoïdes associés de l'éditer en album dans une collection appelée Auto da Fé, non peut-être un peu prémonitoire, pour ce livre-là comme pour ceux qui vont suivre, n'aura pas de succès. Il faudra des années pour qu'une certaine idée du livre de bande dessinée puisse triompher à son tour. Mais dans le monde anglo-saxon, c'est Art Spiegelman et sa femme Françoise Mouly, venus du monde de l'avant-garde et de l'underground. Art Spiegelman a travaillé à San Francisco, a connu Crumb, mais ils créent ensemble une revue de luxe, une revue superbe, Raw, qui accueille des auteurs de toutes origines, beaucoup d'auteurs remarquables, Tardy, Matotti, Charles Burns, etc., Jo Swartz y publieront, mais c'est là aussi, sous une forme de petits fascicules, presque de comic books, que sera publié le long feuilleton de Maus, le livre dont on peut dire qu'il a tout changé dans la sphère américaine ou anglo-saxonne et qu'il a beaucoup changé dans la bande dessinée tout court par l'intensité de son sujet, l'histoire du père d'Art Spiegelman, survivant d'Auschwitz, mais le mélange aussi de cette histoire qui traite de l'irreprésentable, des camps, de la Shoah, le mélange de cette histoire du père avec le discours intime d'Art Spiegelman, une écriture d'une fluidité extraordinaire, un usage tout à fait neuf de la bande dessinée animalière. Nous sommes ici dans cette page au début du tome 2. Bref, deux livres qui vont faire dire à ceux qui n'aiment pas la bande dessinée, à beaucoup de ceux qui n'aiment pas la bande dessinée, que Mao Suisse, c'est un chef-d'œuvre, mais que ce n'est plus une bande dessinée. Comme si, pour aimer une bande dessinée, quand on n'a pas grandi avec elle, il fallait penser que c'est autre chose. Alors oui, va arriver ce mot magique dont Spiegelman se servira habilement et qui sera repris par des libraires et des bibliothécaires. Non, ce n'est pas une bande dessinée, c'est un graphic novel. Ah, c'est un graphic novel, je peux lire un graphic novel, je ne me déshonore pas. Mais le graphic novel ne se limite pas à une œuvre intime et fortement historique et politique. Le graphic novel, c'est au même moment le travail remarquable d'Alan Moore revisitant le monde des super-héros dans Watchmen, inventant une forme d'utopie ou de dystopie politique dans V for Vendetta, revisitant le Londres de Jack l'Éventreur dans From Hell, chaque fois avec un dessinateur différent, avec une puissance romanesque qui font qu'il s'agit là aussi de graphic novels, et d'autant plus que même si de courts fascicules paraissent d'abord, ils sont destinés à être repris en un gros livre qui nous offre une expérience de lecture longue et comparable à celle d'un grand film ou d'une œuvre littéraire. Et c'est du Japon qu'arrive quelque chose d'une ampleur considérable. Akira de Katsuhiro Otomo, qui, par certains côtés, même avec de tout autre code, participe de la même dynamique. Cela n'empêche pas une bande dessinée traditionnelle, dans la continuité de ce qui s'est fait dans Spirou et Tintin, avec le scénariste Jean Van Hamme et des dessinateurs comme Rosinski ou Vance. Ça n'empêche pas que cette chose plus traditionnelle se continue, mais elle est désormais concurrencée et l'album cartonné couleur de 48 pages, que Jean-Christophe Menu rebaptisera bientôt le 48cc. Le 48cc commence à être sérieusement concurrencé par une nouvelle génération. Le temps des revues s'achève. À suivre est la dernière à disparaître en 1997, après un peu moins de 20 ans. Il faut dire qu'à suivre, qui avait accueilli toute une nouvelle génération, en a laissé passer une autre. Des jeunes gens des débuts des années 90, Dupuis, Berberian, Trondheim, Menu, David B., Kilofer, qui, rejetés par les grandes maisons d'édition, décident de s'associer et de fonder une petite revue en noir et blanc, Lapin. Et de cette revue et de ce groupe, l'association, vont sortir bientôt des livres, car au fond, c'est cela qu'ils veulent faire, des romans graphiques, comme Spiegelman en a fait, comme Eisner en a fait, comme Baudouin en a réalisé à sa façon, en squattant les grands éditeurs, comme Futuropolis, à un moment, a tenté d'en produire. Et de ces romans graphiques, aussi remarquables que Livret de famille de Jean-Christophe Menu, que L'ascension du haut mal, ce grand récit autobiographique de David B., que approximativement de Lewis Trondheim, etc., de ce courant du roman graphique, de ce petit éditeur qui d'abord cherche sa place, va émerger un livre à immense succès, un livre qui presque autant que Maus bouleversera le paysage de la bande dessinée mondiale, Persepolis de Marjane Satrapi. Et puis, et là je dois aller très vite parce qu'il est bien tard et je suis bien bavard et la matière est bien abondante, et puis ce roman graphique commence à se disséminer, à se disperser, les frontières se brouillent entre les grands éditeurs et les éditeurs alternatifs, entre la tradition française et les autres traditions. Un Johann Svar qui a démarré à l'association rejoint bientôt Poisson Pilote chez Dargo avec la série à succès Le Chat du Rabbin à côté de tant d'autres séries. Emmanuel Guibert publie chez Dupuis dans la collection Air Libre et en grand format une bande dessinée quasi expérimentale, Le Photographe, tout en continuant les superbes albums en petit format et souple de La Guerre d'Alan puis de L'Enfance d'Alan. Les genres se mélangent, il n'y a plus de sujet impossible à aborder. Fabrice Nau publie chez Ego Comics, une maison avant tout dédiée à l'autobiographie, hélas disparue, un journal, le journal du quotidien d'un jeune homosexuel vivant difficilement dans une petite ville de province. Et c'est une narration remarquable, non seulement par son intimisme, mais par sa capacité à changer de style, à utiliser toutes les écritures graphiques. La bande dessinée commence à s'occuper du territoire aussi, de la non-fiction, et notamment des biographies, et Catel et Bocquet sont parmi ceux qui l'ont le mieux illustré. Dans une collection comme Écriture, chez Casterman, à laquelle je ne suis pas tout à fait étranger, on rassemble, sous un format qui ressemble à celui des éditeurs indépendants, des romans graphiques venus d'Europe, venus du monde anglo-saxon, mais venus aussi du Japon. Et des nouveaux lecteurs s'enthousiasment, notamment pour l'œuvre d'un Taniguchi. Les femmes qui longtemps se sentaient peu à leur place dans ce monde assez viril de la bande dessinée enfantine traditionnelle, les femmes trouvent une nouvelle porte avec cette idée de roman graphique qu'elles interprètent chacune à leur façon, et c'est le cas de Posy Simmons avec Gemma Bovary, puis bien d'autres albums remarquables, d'abord publiés dans The Guardian et triomphant ensuite sous forme de livres. Aux États-Unis, c'est Alison Bechdel qui raconte son enfance et la découverte de son homosexualité dans Fun Home, qui va devenir un classique. Joe Sacco, journaliste de formation, se dit que la bande dessinée peut être un outil de reportage absolument formidable, permettant, mieux qu'avec un appareil photo, mieux qu'avec une caméra, de pénétrer des milieux et d'y rester longuement. Et puis, il y a de temps en temps des individus qui transcendent toutes les catégories, qui ne sont ni dans le comic book, ni dans le graphic novel, ni dans la bande dessinée, qui juste réinventent ce langage en jouant avec toutes ses formes. Et c'est le cas de Chris Ware, qui débute d'abord avec des petits fascicules anonymes, puis produit cet énorme livre qui ne ressemble pas à un roman graphique, parce que parfois on croit que le roman graphique, c'est un livre souple, noir et blanc et broché. Là, c'est un livre horizontal, en couleur et cartonné. Il n'empêche que Jimmy Corrigan renouvelle lui aussi la bande dessinée et que Chris Ware, inventeur forcené, réussit aussi à renouveler l'art du livre avec cette boîte étrange qui s'appelle Building Stories, histoire d'un immeuble, mais aussi histoire se construisant. Chris Ware est ici un peu notre Georges Perec, notre Oulipo à lui tout seul. 14 petits fascicules, 14 objets que l'on peut lire dans l'ordre que l'on veut et qui reculent les limites de la presse et celles du livre. Le roman graphique, le graphic novel surtout, devient un genre à part entière qui a sa place dans les librairies anglo-saxonnes avec Dan Close, avec Charles Burns, avec Craig Thompson, Blankets et Habibi, avec une écriture qui nous montre que tout est devenu possible dans l'utilisation et la combinaison du texte et de l'image. Les territoires de la non-fiction s'étendent, et Guy Delisle est l'un de ceux qui les a le mieux arpentés, tout comme en France Étienne Davodeau, succès mérité d'un livre comme « Les ignorants ». Et puis, le roman graphique chez éditeurs qui ne sont pas des éditeurs spécialisés en bande dessinée, comme Alary, obtient un succès considérable et international avec « L'Arabe du futur » et « Les cahiers d'Esther ». La bande dessinée montre là qu'elle peut, dans la continuité de Persepolis, traiter de réalité politique, mais en traiter sous un mode extrêmement personnel, parce que peut-être cette écriture graphique, celle de Satouf, celle de Satrapi, celle de bien d'autres, donne immédiatement un ton et un style à l'histoire que l'on veut raconter. Ne serait-ce que le lettrage est immédiatement une signature. On part vers des territoires esthétiques, avec les albums de Catherine Meurice. On revisite l'histoire des femmes avec Pénélope Bagieu. On embarque avec Thomas Pesquet dans un vrai documentaire dessiné. Et l'on explore, dans les albums de Bastien Vivès, les territoires de l'intimité avec une sensibilité que dont la bande dessinée s'était longtemps cru incapable. Mais c'est devenu une aventure de livre. Et la presse manque à beaucoup. Et si la bande dessinée semble connaître un nouvel âge d'or créatif, nous assistons à deux phénomènes, et je terminerai là-dessus. Un premier phénomène que beaucoup perçoivent comme celui de la surproduction. Tout se fait en album immédiatement, et comment découvrir et identifier les nouveaux auteurs qui vous séduiront, là où Pilote à suivre et d'autres vous permettaient de les découvrir peu à peu au milieu des autres. Et puis, une précarisation grandissante de ce monde où la création a l'air de bien se porter, mais où la presse, qui était finalement l'outil principal qui permettait aux auteurs de se développer, de mûrir, de grandir, de se documenter, où la presse, cédant la place au livre, a permis aux auteurs de bande dessinée, certes, de trouver une nouvelle légitimité, mais en même temps de devenir aussi fragile que l'étaient les écrivains. Merci.
Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.